Amen. Frères et sœurs, je vous accueille à nouveau dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est bon de le rencontrer, de penser à lui, à son visage tourné vers nous, à ses yeux qui lisent nos pensées, nos paroles, notre passé, notre avenir. Et de savoir que malgré tout cela, il nous dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis toujours avec toi ». Nous allons ouvrir la Bible dans la Genèse une nouvelle fois. Nous avons parlé dimanche sur Abel et Caïn. Quelle histoire, notre histoire. Et maintenant, j'espère que je ne vais pas vous apporter d'inconvénients pendant vos vacances. Je vais vous parler du déluge. Vous avez pris votre parapluie ce matin ? Toujours prudent, il faut prendre le parapluie. Surtout après ce que je vais vous dire. Genèse, chapitre 6, verset 5. On ne lira pas toute l'histoire du déluge, qui prend trois grands chapitres de la Bible. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur, affligé. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham, Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Hermétique. Donc, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, environ 150 mètres, 50 coudées de largeur, 23-25 mètres, et 30 coudées de hauteur, 15 mètres, aussi haute que notre église. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, etc. Amen. Genèse, chapitre 9, verset 14. « Le déluge est passé, l'arche est retournée sur la terre, en Arménie, sur les montagnes d'Arménie, sur le mont Ararat. Et puis Dieu va parler à nouveau. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel, paraîtra dans la nuit. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Et nous arrêtons la lecture ici aujourd'hui. Amen. Seigneur, veuille bénir ta parole, nos cœurs, qu'ils soient attentifs. Quel message veux-tu nous donner ce matin ? Que veux-tu nous apprendre ? En quoi veux-tu nous reprendre ? En quel domaine veux-tu nous prendre par la main ? Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Amen. N'êtes pas choqués par ce texte ? Il me bouleverse. C'est une catastrophe, la première et la dernière catastrophe de l'humanité aussi importante. Mais, vous avez vu pourquoi ? Le mal était sur toute la terre. Toute la terre. Les petits bambins, les personnes âgées, les couples, les jeunes, tous se portaient uniquement vers le mal, uniquement. Il n'y avait pas de place au bien. On ne pensait plus au bien. Et ça, c'est l'esprit qui est dans le monde. Le Nouveau Testament nous parle d'un esprit qui est dans le monde. L'esprit du mal, l'esprit de Satan. Je suis étonné parce que c'est le commencement du monde, c'est frais, c'est beau. C'est le printemps du monde. Adam et Ève viennent de sortir des mains du Créateur. Tout est paradis. Et dans ce paradis, la corruption, très vite, toute chair. Voyez-vous, le mystère du mal. Internet n'existait pas encore, ni les portables. Et malgré cela, le mal se répand très vite sur tous les habitants. Vous avez lu la Genèse, mais aussi l'Apocalypse. On retrouve la même chose dans l'Apocalypse. Tous les habitants de la terre adoreront la bête, c'est-à-dire une représentation de Satan. Malgré que la Bible est traduite en centaines de millions d'exemplaires, eh bien, mes amis, à la fin des temps, l'univers se prosternera devant le diable. Est-ce que Jésus parle de cette histoire de Noé ? Oui. Il dit, au temps de Noé, les hommes mangeaient, comme vous, buvaient, comme vous, se mariaient, marier leurs enfants. La vie, quoi. Oui, mais c'était le seul but de leur vie. Quand les valeurs de l'Évangile disparaissent, il ne reste plus que la prospérité personnelle, matérielle. On ne pense plus à Dieu. On ne vit que pour les choses de la terre. On ne vit que pour les choses de la terre, pourvu qu'ils réussissent. Voilà. Pourvu qu'elles réussissent. Dieu. On verra. Quand on perd l'Évangile, on s'enterre. On ne pense qu'aux choses d'en bas. On se mariait, on mariait les enfants, et la Bible dit « la terre était pleine de violence ». J'ai du mal à croire que dans les couples, ça allait très bien. Peut-être que je suis mauvaise langue ce matin. Je me dis, si la terre était pleine de violence, si on ne supportait pas son voisin, si on ne supportait pas les gens d'à côté, je pense que dans le couple, je pense qu'il devait y avoir des tensions. Quand on est violent à l'extérieur, je pense qu'à l'intérieur, on n'est pas un ange. On est violent avec sa femme, ses enfants, ses parents. Mais quand même, au moins, ils se mariaient. Ils se mariaient, une femme et un homme, puisqu'ils avaient des enfants. On a même perdu ça, voyez-vous. Mais ils avaient de l'amour. S'ils se mariaient, il y avait de l'amour. On ne se marie pas pour le sexe. On se marie parce qu'on aime, parce qu'on veut voir l'autre heureuse, heureux. Mais on peut s'aimer dans un couple et ne pas aimer le prochain. On peut s'aimer, se marier et ne jamais aimer Dieu. Donc un amour limité. Quand les gens deviennent méchants, violents, ils méprisent Dieu, sa parole, ses serviteurs. Noé a dû être méprisé. Mais presque 600 ans, hein. Le temps de Noé est un temps d'apostasie. Toute la terre avait lâché la main de Dieu. Un temps de violence. Mais ce qui me fait le plus peur, et j'en souffre déjà beaucoup, personnellement, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour de Jésus. Ça me fait peur et j'en souffre beaucoup du mystère du péché qui rentre partout où il peut, comme l'eau qui passe sous la porte. C'est le mystère de l'iniquité, c'est la violence que l'on trouve partout dans les pays, les villes, partout. Les films d'Hollywood, quelle calamité, quelle catastrophe. Toutes les séries télévisées, qu'est-ce qu'il y a? Le pétard, des égorgements, des crimes, du sang. On nous montre la violence, on sème dans nos cœurs des graines de violence. Nous sommes dans ce temps de violence. Ce qui est terrible ici dans ce texte, peut-être le plus terrible, Dieu a regretté. C'est la seule fois dans la Bible où Dieu a regretté quelque chose. Il a regretté d'avoir créé les êtres humains. Il s'est repenti, ça veut dire il a changé d'avis. Il en a assez de la méchanceté. Parce que malgré les prédications de Noé tous les dimanches, tous les lundis, les mardis, tous les jours, personne ne changeait. Dieu en a assez. Pas assez de l'humanité. Parce que Jésus, il attend pour venir. Au temps de Noé, il est prêt, Jésus. Il est prêt à venir s'incarner dans la Vierge Marie. Il est prêt à venir mourir sur la croix. Il est prêt à venir rencontrer l'humanité et la sauver. Dieu ne regrette pas, ne veut pas supprimer l'humanité. Mais il veut supprimer les gens de cette époque qui ne changent pas. Parce que Dieu va leur donner 120 ans. 120 ans pour réfléchir. 120 ans. J'y réfléchis hier soir. Je me suis dit, mais c'est un peu le temps de notre vie. Certains me tirent un peu une triste mine en disant, on ne va quand même pas vivre 120 ans. Vous ne voulez pas? J'espère vivre 120 ans. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je suis libre ou pas ? 120 ans. Jeanne Calment. 120 ans. Bon, à peu près, disons, c'est le temps de la vie. Pendant 120 ans, il va construire l'arche et pendant 120 ans, il va prêcher. C'est le temps de notre vie pour réfléchir. Ils n'ont pas moins que nous, on n'a pas plus qu'eux. On a le temps de la vie pour réfléchir. Mais des gens entendent l'évangile et ne changent jamais. Gardent l'adultère, le mensonge, le vol, l'avarice. Ils ne changent jamais. Mais Dieu prêche toujours 120 ans. Noé prêche et l'apôtre Pierre nous dit que quand il prêchait, c'est le Christ qui prêchait aux habitants, au temps de Noé. Par la bouche de Noé, c'était le Christ qui parlait. Par ma bouche, c'est le Christ qui vous parle aussi. Sans prétention, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Il prêchait à ces gens enfermés dans la violence, enfermés dans le mensonge, avec un esprit rongé par la pornographie, un esprit rongé par la violence. S'il prêche 120 ans, c'est que ça veut dire que si l'homme change, j'arrête le déluge, il n'y a pas de déluge. Si l'homme se repent, il n'y aura pas de déluge sur la terre, tout va changer, la terre va redevenir un paradis. 120 ans. J'imagine Noé. Dieu vous aime, Dieu vous appelle. L'Esprit de Dieu ne parlera pas toujours en vous. Voilà ce qu'il disait Noé. C'est écrit dans la Bible. L'Esprit de Dieu ne restera pas toujours en vous. Un jour, vous vous endurcirez et vous n'entendrez même plus, vous n'écouterez même plus, vous dormirez, votre esprit dormira. Parce que le péché endurcit le cœur comme la chaleur endurcit la terre. Et on n'entend plus Dieu parler. Ne trouvez pas que ce déluge, il est déjà en nous déjà. On a perdu déjà notre enfance. On ne l'a pas vu passer, celle-là. On a perdu des journées un peu ratées. On a perdu des belles années. On a l'impression qu'on nous enlève toutes nos plumes. On nous enlève nos minutes, nos heures. On a l'impression qu'un déluge passe sur nous. Mais Jésus disait qu'un torrent va déborder et puis il va se jeter sur vous, sur la maison. Et il va enlever, il va ébranler. Mais il y a une porte de secours. Il y a l'arche qui se prépare. Il y a la prédication de Noé, inlassable. Et Noé, il représente Jésus-Christ. Et l'arche représente Jésus-Christ. Mais Noé représente chacun de nous qui prions pour nos enfants, qui prions pour nos familles. Noé a travaillé pour sa descendance. Il n'a pas travaillé tellement pour lui. Il a travaillé pour ses trois enfants, ses trois belles-filles, et tous les enfants, et pour nous, et pour moi, et pour vous, et pour moi. Il a sauvé, en sauvant trois hommes, ses trois enfants, il a sauvé l'humanité. Un proverbe juif dit, si tu sauves un homme, tu sauves l'humanité. Et si vous, mes amis chrétiens, vous amenez à la foi de Jésus-Christ quelqu'un, peut-être que vous ne sauvez pas un, ni dix, mais peut-être mille, peut-être cent mille. Parce que en sauvant quelqu'un, derrière lui, il y a les enfants, la descendance, d'autres personnes, d'autres amis, à l'infini. Prêcher 120 ans, sans impatience. Il n'a pas dit, vous êtes tous des bons à rien. Il n'a pas fermé la porte. Puisque vous ne venez plus, je laisse les portes fermées de l'église. Non, il a laissé la porte de l'arche ouverte. Et il a laissé la petite fenêtre sur le haut de l'arche qui permet de voir le ciel quand on est découragé. La fenêtre de la prière. Quand on est découragé, on pense à Jésus-Christ, on regarde plus haut que les vexations, que les déceptions d'en bas. Oui, Noé a sauvé l'humanité. Merci Seigneur pour Noé. Amen. Vous ne remerciez jamais le Seigneur pour Noé ? Parce qu'il était intègre pour son époque, il ne connaissait pas tout comme vous. Et grâce à lui, nous sommes là. Et Noé représente Jésus. Mais pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans l'arche ? Pourquoi n'ont-ils pas répondu à l'invitation de Noé ? Par incrédulité. Ils ne croyaient pas qu'il y aurait une catastrophe aussi grande. Ils ne croyaient pas que Dieu leur ouvrait une porte pour le salut et que c'était sérieux. Pour eux, c'était de la rigolade. Et puis peut-être qu'ils ne voulaient pas changer d'avis. Ils se plaisaient dans la porno, se plaisaient dans la violence, ils se plaisaient dans les mangeailles. Et encore des noces, et des retours de noces, et des retours de noces. Puis peut-être qu'ils avaient peur de l'opinion des autres. On retrouve les mêmes choses aujourd'hui. Et Dieu, un jour, ferma la porte, clac. Mais il a fait une alliance. Ensuite, quand l'arche s'est mise à bouger, la pluie est tombée, les sources d'en bas se sont ouvertes. On a l'impression que l'eau est venue d'en bas, elle est venue d'en haut, de partout, et l'arche a flotté dans un désert de mort, de désolation. Et Dieu ensuite a fait une alliance, il s'est attaché aux hommes et il a juré de ne jamais redonner de déluge à l'humanité. Si votre voisin fait couler sa baignoire et que ça passe par dans votre appartement, ce n'est pas le déluge. C'est simplement un accident. S'il pleut un peu trop ce soir, avec quelques coups de tonnerre, ce n'est pas le déluge. C'est simplement la nature qui bouge. Mais ce qui est beau dans l'histoire de l'Alliance, Dieu s'est allié, Dieu s'est uni avec l'humanité, avec les animaux même, les animaux. Les petits chats, les lions, les serpents, la lunette. Il a fait une alliance avec tous les animaux. Une alliance où il n'a rien demandé. Que voulez-vous demander à un chat ? Que voulez-vous demander à une puce ? Il n'a rien demandé en retour. Il ne nous a rien demandé en retour. C'est une alliance à sens unique. Je ne te demande rien, je t'aime. Tu n'as pas à me prouver, à me faire de cinéma. Tu n'es pas un acteur quand même. Sois simple, tu es mon enfant. Je ne te demande rien en retour. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Et puis, comme un signe de cette alliance entre Dieu et les animaux, les hommes, Dieu a choisi un signe, que tout le monde le voit. La biche dans la forêt, le pinson dans son arbre, le petit enfant qui s'éveille dans son jardin. Ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Vous avez déjà vu un arc-en-ciel ? Qui n'a jamais vu d'arc-en-ciel ? Peut-être. Tout le monde a vu un arc-en-ciel. Important. L'arc-en-ciel, c'est pas pour nous faire penser à Dieu. L'arc-en-ciel, c'est pour nous dire que Dieu pense à nous. Je regarderai et je me souviendrai de mon alliance avec vous. Dieu pense à nous. Donc Dieu est une source de vie. Dieu est une source de pardon. Et je pense, permettez-moi de vous le dire, bon, l'histoire est finie, plus grand-chose à dire, juste un mot. Le déluge aurait pu être évité. Et je pense que des catastrophes auraient pu être évitées aussi chez vous et chez moi, si on était attentif à la voix du Seigneur. L'arc-en-ciel. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, bien sûr, mais une fois, en me promenant, un arc-en-ciel particulièrement beau, grand, total, dans toutes ses couleurs, je me suis arrêté pendant 10 minutes pour regarder cette beauté. L'arc-en-ciel, il a un sens, c'est un arc de guerre. À l'époque, on tirait à l'arc. Ça veut dire que Dieu dépose son arme. Cette arme de guerre, Dieu la tourne vers le ciel, un arc. Là, vous avez des arcs. C'est plein d'arcs. C'est des croisées d'arcs. Et tous les arcs sont tournés vers le ciel. Dieu s'est désarmé. Dieu veut nous dire, maintenant, je vais être patient avec vous. Et si Dieu lance une flèche, l'arc est tourné vers en haut. Si Dieu lance une flèche, il lance la flèche chez lui et pas chez nous. Et nos armes à nous, contre qui les pointons-nous? Si quelqu'un utilise une arme contre lui, contre son frère, contre son pasteur même peut-être, contre sa femme, je ne sais pas, ou son mari. Si quelqu'un utilise une arme, c'est contre lui qu'il vise. Il croit faire du mal, mais il se fait du mal. Il croit bien avoir bien visé. Je l'ai eu. Non, tu as fait du mal à ta maison. Tu as fait du mal à ta famille. Celui qui blesse son prochain se blesse lui-même. Pourquoi un arc ? Regardez tout en haut, nous l'appelions à l'époque la grande arche. Je ne sais pas si j'ai toujours la marque de mon crâne gravée là-haut. Un jour, je l'ai heurté tellement fortement que j'ai fait un bond de 2 mètres en arrière. Je n'étais pas beau dans toute la journée. Cette arche, c'est l'arc, l'arc-en-ciel. Et pour moi, l'arc-en-ciel représente une porte ouverte chez Dieu. Pour que on puisse aller chez lui, qu'on ne s'enferme pas dans la violence, le matériel, la richesse, l'impureté qui nous ravage le cerveau, qu'on puisse aller chez lui. Savez-vous ce que c'est un arc-en-ciel? Je ne suis pas scientifique. Hein. C'est la rencontre très heureuse entre la lumière et des petites gouttes de pluie. C'est beau, hein? Presque rien. La lumière et des petites gouttes de pluie. Et là, nous avons un reflet de la lumière sur la pluie qui donne l'arc-en-ciel. Dieu est comme une pluie qui nous fait grandir, rafraîchir, agir, marcher, en avant. Amen. Mais si on n'avait que ça, que de la pluie, je pense qu'on serait découragé, on n'arrêterait pas, on serait toujours en action, en marche, en course. Dieu est aussi soleil. Il nous réchauffe, il nous fait du bien, il nous éclaire. Mais si on n'avait que le soleil, on serait sur la plage du matin au soir. Si on n'avait que le soleil, on serait tout apathique, on ne ferait rien, on n'aurait pas d'énergie. Il faut la lumière et il faut la pluie. Il faut le soleil et il faut la pluie. Amen. En Dieu, il y a ces deux forces. Une force qui nous fait du bien et une force qui nous dit maintenant, je t'envoie en mission. Va consoler ma fille là-bas. Va consoler une telle, un tel. Dieu, par sa lumière, nous calme. Il nous secoue par sa pluie. En avant, continue, ne t'arrête pas. Il nous calme, il nous secoue. Il nous rafraîchit, il nous dit en avant. Vous regarderez l'arc-en-ciel ce soir, quand l'orage va faire bien sonner ses cloches. Ah, l'arc-en-ciel. Encore un mot, et je finis. Combien a-t-il de couleurs ? On dit 7. Pas facile à compter. On ne sait pas compter. La lumière blanche, enfin, je ne peux pas l'appeler blanche, je ne sais pas, la lumière blanche, elle va séparer sur la goutte d'eau, elle va séparer la lumière en 7 couleurs. Le bleu, l'indigo, le violet, le jaune, le rouge. C'est magnifique. Et le vert ne peut pas dire « moi, je suis la couleur ». Non, tu n'es que le vert. Et le jaune. Non, non, mes amis, la couleur, c'est le jaune. Pas du tout. La couleur, c'est tout le monde. Je ne peux pas vous dire « l'Église, c'est moi ». C'est nous, l'Église. L'arc-en-ciel, c'est tout le monde ensemble. La famille, ce n'est pas que le papa qui tape du poing ou la maman qui pleure. La famille, c'est tout le monde. L'Église, c'est tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Et je crois qu'il faut que tout le monde soit là pour que l'Église soit un signe de l'amour de Dieu. C'est beau comme histoire. Hein? En sauvant Noé, Dieu a sauvé l'humanité. Mais nous, des années, des milliers d'années plus tard, nous recevons cet avertissement très grave. Il n'a pas épargné les hommes impies, méchants, les hommes d'orgie, les hommes violents. Attention, il ne les a pas épargnés, il les a appelés. Puis il a sauvé Noé pour nous dire « Je sais délivrer ceux qui sont pieux, ceux qui m'aiment, ceux qui me craignent. » Nous rendrons compte de toute œuvre que nous avons faite dans notre cœur. Mais Dieu aussi voit ce qu'il aime et ce qu'il recherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous sauve par son arche sainte, Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour où le Seigneur se préparera à venir sur la terre. Le temps est venu de ton retour, Seigneur. L'Église attend ton retour. Nous sommes dans cette attente extraordinaire, non pas d'un déluge pour nous-mêmes, mais de la venue bénie de Jésus. Nous sommes dans un monde qui perd aussi la foi. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous fidèles à ce que nous avons reçu. Nous voulons garder la parole que tu as mise en dépôt dans notre cœur. Nous ne voulons pas que le péché nous séduise. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans sa séduction. Pour être mieux, plus riche, plus fort, garde-nous simples, humbles devant nos frères et devant Dieu. Garde-nous tous en ce temps difficile, parce que tu es le Dieu qui pardonne et qui relève. Amen.